Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Selon lui, ses romans n'étaient pas très modernes. Par ailleurs, il avouait n'avoir jamais aimé Kafka, Joyce, Beckett, Musil. Il souhaitait un journal-roman. Ses carnets, ils n'étaient ni un journal, ni des mémoires. Voici le dernier volet de cette série d'avoies nues consacrée par Daniel Salnave à Casimir Brandis, première diffusion sur France Culture le 4 juin 1993.
À voix nue. Aujourd'hui, Casimir Brandis s'entretient avec Daniel Salnave. Cinquième et dernier entretien.
Je pense à une phrase dans vos carnets, dans le volume Paris 85-87, où vous dites à propos de Rondeau, qui pour moi est un roman absolument, quand je dis réussi, permettez-le, je veux dire par là que je l'admire beaucoup et qu'il est sur le plan formel parfait, mais vous dites tout de même, pour moi, c'est plus une imitation amusante de la forme romanesque qu'un roman sérieux. C'est vous dire que vous avez déjà, depuis longtemps, envers la forme romanesque, un regard...
Une certaine distance.
Une certaine distance et une ironie.
Oui, oui.
Et
oui.
Je crois que cela explique vraiment pourquoi, ces années-ci, vous avez publié en France, en français, donc et dans d'autres langues, et maintenant ces volumes sont aussi publiés en polonais, des volumes de carnets. Et moi, j'aimerais beaucoup que nous en parlions, parce que la première fois que je les ai lus, je les ai admirés beaucoup, parce qu'il m'a semblé que vous proposiez une définition vraiment nouvelle du carnet. Je pense encore à une citation où vous dites « Les carnets ne sont pas un journal dans lequel on note au jour le jour des événements et des réflexions, ni des mémoires dans lesquelles on consigne sa biographie. C'est la narration construite et non imaginaire d'une vie. » Moi, je me sens très proche aussi de cela et j'aimerais bien que vous nous parliez de cette grande aventure des carnets qui vous occupe beaucoup et qui constitue déjà trois beaux volumes publiés.
Écoutez, parfois arrive un temps où la réalité est plus romanesque que le roman, plus littéraire que la littérature. Un temps où la vie dépasse la littérature. Un jour j'ai compris, un jour, peut-être pas, un jour, je répète, peut-être, c'était depuis longtemps... Cette distance qui m'écartait d'un roman classique, d'un roman traditionnel. Mais un jour, j'ai compris cela, c'est que le roman est autour de moi. Je participe à un grand roman historique qui se déroule dans la réalité. C'était la période de l'opposition démocratique à la dictature communiste. Il y avait des arrestations chaque jour, des écoutes téléphoniques, les drames personnels des gens qui étaient mes amis. Et souvent, ce qui est important, souvent plus jeune que moi. Et j'ai compris que ce qui s'est passé était plus dramatique et plus important que mes fictions romanesques. Et à partir de ces jours, je me suis mis à écrire mes carnets. Bien sûr, ils sont aussi l'histoire de moi et de ma femme, de notre mariage, de notre jeunesse. Ma femme, je l'ai rencontrée pour la première fois dans le lycée, avant notre bac. Nous avions ensemble 34 ans, chacun 17. et nous ne nous sommes jamais plus séparés. Nous avons vécu ensemble la guerre, les bombardements, la déportation, et notre histoire dans les carnets comme un fil conducteur dans un roman. C'est pourquoi j'ai dit que les carnets sont un journal roman.
Les carnets sont le résultat d'une composition. Quand vous dites dans la citation que j'ai faite qu'il ne s'agit pas de notation au jour le jour, il s'agit de bien plus que cela, il s'agit d'une matière qui est travaillée, transformée, composée avec des... Oui, avec une composition aussi savante que celle d'un roman.
Absolument, c'est très difficile à écrire.
Oui.
Apparemment c'est facile. Et je sais qu'on dit à Varsovie même... Mais vraiment, il a trouvé quelque chose comme dans la rue. Il écrit tout ce qui se passe. Il décrit cela. Alors, c'est une trouvaille, vraiment, c'est une trouvaille. On dit comme ça. Et ce n'est pas comme ça. Oui, c'est beaucoup plus difficile. Il faut faire une sélection. Il faut choisir ce qui est important. Ce qui ne l'est pas, il faut les rejeter.
Et vous n'hésitez pas à des développements qui, en général, dans les carnets ou dans les journaux, ne figurent pas, de longs développements qui peuvent avoir plusieurs pages sur un sujet qui fait appel à des références historiques, oui, véritablement. Là, on pense aussi aux essais, mais au sens de Montaigne, non plus aux essais au sens moderne du terme, mais au sens de Montaigne.
Oui, oui, oui. Mais est-ce que vous connaissez l'œuvre d'un écrivain russe du 19e siècle, Herzen?
Oui, j'ai lu son journal.
Oui, je crois que c'est mon patron. Oui, c'est le genre littéraire qui est devenu très contemporain. Oui, le prince Joseph Poniatowski. Ce livre n'a pas été traduit en français et il n'est pas traduisible parce que les Français... Quel Français sait qui était ce personnage qui, quand même, dont la statue figure dans le mur du Louvre à côté des maréchaux napoléoniens? Il a été nommé maréchal de France pendant la bataille de Leipzig, où il a péri en se jetant à cheval dans l'Elster, dans la rivière. Et il est devenu un personnage légendaire en Pologne, un bayard polonais, comme on dit. Et pourquoi ce livre, que c'est mon journal intime, où j'avais inscrit des fragments ou des idées de ce livre sur Prince Poniatowski. Le titre de ce livre, c'est Joker. Ce titre concerne le prince Joseph. Parce que Joker, c'est une carte qui est toujours bonne, qui remplace tous les atouts. Et lui, il était neveu du dernier roi de Pologne. C'était la fin du XVIIIe siècle, était Stanislas Auguste Poniatowski. Pour Napoléon, prince Joseph était un joker, c'était une carte comme un atout, parce que le neveu du dernier roi, c'est toujours un bon héritier de la couronne. Et si Napoléon parfois pensait un royaume polonais indépendant, il pensait au prince Joseph. C'est ça, la littérature polonaise qu'on ne comprend pas dans le monde, parce qu'on ne connaît pas l'histoire. Et ce n'est pas le seul cas dans ma littérature. Par exemple, les variations postales, il y a tant de références à l'histoire polonaise qui ne sont pas connus en Occident, que ce livre aussi, il a été traduit en allemand et en italien.
En italien.
Pratiquement, le lecteur étranger ne peut pas comprendre ce livre. Même l'histoire d'un officier napoléonien qui, pendant la retraite de Bérézina, blessé, affamé, il fait une amputation de sa jambe qui était en gangrène, il le mange. Ce n'est pas compréhensible parce que ce qui est essentiel dans cette histoire, c'est que cet homme, seul un Polonais, pouvait après écrire des lettres au pape en lui demandant qu'il lui réponde si c'était un péché mortel de manger sa jambe ou non. Alors, c'était pour les Polonais, pour un catholique polonais, vraiment...
Un vrai cas de conscience.
Oui, un cas de conscience, oui.
Un écrivain qui est connu est forcément confronté à cette question de la traduction de ses œuvres, donc de la perte de certaines références, de la perte de certains effets qu'il a lui-même produits dans sa propre langue. Est-ce que pour vous, l'épreuve de la traduction, c'est une épreuve qui vous fait souffrir ?
Ça, vous savez, je suis indifférent, complètement. J'attache l'importance seulement à ce que j'ai écrit en polonais. Quand je trouve un bon traducteur, c'est très bien, mais ce n'est pas mon livre, non.
Vous pensez vraiment, ce n'est plus votre livre ?
Non.
Vous avez de bons traducteurs, Jean-Yves Herrel, Thérèse Douchy ?
Oui, naturellement, tous les deux sont des traducteurs excellents. Mais quand on écrit les couteaux en polonais, c'est « nóż ». Quand on traduit le mot « nóż » en couteau, ça change le rythme de la phrase. Avec un article, le couteau, un couteau. Et nous, c'est tout simplement nous. Enfoncer un nous dans la poitrine, c'est une autre chose qu'enfoncer un couteau dans la poitrine, pour moi. Et c'est pourquoi ce sont des livres bien traduits, naturellement, mais ils ne sont pas les miens.
Depuis cette lamentable affaire de la tour de Babel, nous sommes condamnés à cela. Pourtant, j'aimerais bien faire entendre, moi, quelques lignes d'un de vos carnets. Je crois que nous qui le lisons en français, nous lisons une langue qui est très belle. Et je vais lire ces lignes-là parce que je les trouve vraiment magnifiques. Janvier 87. Les trottoirs et les chaussées noires, bordés de neige sale, les toits noirs. Les voitures éclaboussées klaxonnent dans les embouteillages de la rue de Rivoli. Les passants habillés de moutons retournés, de manteaux d'été, de vestes claires rebondies, comme gonflés d'air, presque tous portent des écharpes de laine colorées jetées sur l'épaule. La ville, couverte de grisailles, a terni. Le ciel au-dessus des toits est laiteux, a tourné allègre, inexpressif et sans lumière, infiltré d'eau, l'air aussi est humide. Une ressemblance avec les villes de notre Europe, celle du centre et de l'est. L'hiver a fait le nécessaire. Paris apparaît un peu moins parisien. La nuit, le mercure descendait à moins 20, puis un réchauffement est venu, le dégel avec un vent tiède. La mortification des Français par le froid et les grèves les a rapprochés de mon état d'esprit polonais. Je sors habillé de ma veste de mouton varsovienne, une écharpe jetée sur l'épaule et un petit chapeau sur la tête. L'image du pays se dessine en fragments épars. Et je trouve ça vraiment...
C'est très bien traduit.
Magnifique.
Par Thérèse Douchy.
Magnifique,
oui.
Par Thérèse Douchy. Oui. Et je crois qu'elle, cela dit bien exactement ce que vous avez apporté dans la littérature française. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut qu'un écrivain étranger, qui n'est plus un étranger puisqu'il est chez nous depuis longtemps, sache aussi ce qu'il apporte dans la langue française lorsqu'il est traduit par un bon traducteur. Il y a une langue française et des œuvres en français qui sans vous n'existaient pas. Je suis très heureuse de penser cela.
Oui. Et vous savez, ce que je viens de dire sur la traduction, je le disais pendant une session, c'était une rencontre des auteurs traduits en français. Les auteurs du monde entier, dont les livres ont été traduits en français. Et il y avait des tables rondes, et j'ai pris la parole un soir, après quelques verres de whisky, et j'ai dit tout cela, que la traduction de la littérature, pratiquement, c'est une chose impossible. Et naturellement, tous les traducteurs m'en voulaient beaucoup, cet exposé. Mais je crois que c'est vrai. Vous savez, les rapports entre les langues, ce sont des choses très mystérieuses, comme les rapports entre les arbres. Ça, on ne connaît pas. Il y a des langues qui sont plus proches l'une de l'autre.
Moi qui vis en France et qui, au sein d'une littérature qui parfois a connu une tentation et parfois même un excès formaliste, j'avais été très touchée en voyant que vous écriviez au dos du volume 85-87 de vos carnets la phrase suivante. Le fait que je ne le veuille pas et que je n'écrive pas à la troisième personne recèle l'élément important, essentiel, que j'appelle modification de la perspective ou déplacement du point de vue et qui correspond probablement à un genre nouveau d'engagement vis-à-vis de la réalité. Et vous définissez cet engagement, ce n'est pas exactement l'engagement sartrien, un engagement qui se manifeste par le rejet d'une littérature générée par la forme, non par la vie. Moi, je me suis reconnue dans cette définition et elle m'a touchée.
Ah, parce que c'est votre cas.
J'essaie.
Ah oui.
J'essaie.
Je vous ai dit une fois que vous n'êtes pas parisienne, vous êtes française.
Et, oui, j'ai compris que c'était un compliment.
C'était un compliment. Qu'est-ce que je voulais dire que, par exemple, Cocteau était parisien et Colette était française. Et la littérature de Cocteau, c'était la littérature générée par la forme, et celle de Colette était générée par la vie, et la vôtre aussi. Quand j'ai lu vos passages de l'Est, et la vie fantôme aussi, c'est la vie, ce n'est pas la forme qui vous inspire, mais c'est la vie.
C'est la vie qui exige de trouver une forme pour être dite.
Oui.
Et non pas le contraire, et pas une forme qui cherche à se remplir,
oui,
avec de la vie.
Oui,
je le crois,
vrai.
Oui.
Oui, c'est vrai. J'ai trouvé il y a quelques jours une phrase d'un autre écrivain qui n'est pas très sympathique. Je parle de Pierre Dorieux-La Rochelle. Et il a écrit aussi une phrase concernant les femmes, il a écrit que la seule façon de posséder une femme est de la faire souffrir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai beaucoup de mal à entrer dans la considération, comment dire, sympathique ou empathique pour une phrase comme celle-ci. Cela dit, en y réfléchissant, peut-être malheureusement, nos rapports humains et nos rapports amoureux sont-ils marqués toujours d'un peu de, comment appeler ça, peut-être de sadisme, je ne sais pas, mais un peu de désir que la prise sur l'autre, malheureusement, n'échappe pas à la souffrance qu'on lui inflige. Vous avez lu ce journal récemment ?
Oui, je suis de même avis. Oui, c'est un journal qui m'a déprimé, vraiment.
Oui.
Parce qu'il y a des choses révoltantes. Et l'auteur, c'est un homme intelligent. Par exemple, son analyse de huis clos de Sartre est très perspicace. Cette phrase, elle n'est pas juste sur les femmes, mais c'est intéressant, n'est-ce pas ?
Oui, elle est
oui. Oui. Et en même temps, il était un précurseur. Écoutez, des grands empires peuvent se permettre les moyens radicaux. Ils ont déjà essayé. La Russie a donné l'exemple et l'Allemagne a suivi. Il faudrait mettre les Tchèques, 7 millions, en Prusse orientale et les Prussiens orientaux en Bohême. Échanger les Serbes et les Roumains. On peut estimer que les Croates et Slovènes ainsi que les Slovaques sont assimilés au monde germano-magyar. On pourrait aussi ramener en Italie les Italiens de l'Adriatique de la Dalmatie et nettement séparer les Hongrois des Serbes en Transylvanie. Cela n'est pas impossible et va peut-être être fait.
Qu'est-ce que vous c'est pensez de ça?
C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui. Dans le contexte des événements qui se passent en Yougoslavie.
Et après tout un siècle, on n'a pas cessé de transporter des populations entières. C'est certainement le siècle qui a imposé le plus de déplacements à des populations.
Oui.
Cela fait partie de vos lectures récentes. Et quelles autres encore?
Dernièrement, je lis beaucoup de Nabokov, que j'admire. Ah. Et j'ai découvert un roman que je ne connaissais pas et qui ne passe pas pour son chef-d'œuvre. Je crois que c'est ce roman que c'est son vrai chef-d'œuvre. C'est l'exploit.
Et je pensais à lui quand, en réfléchissant sur le carnet et les rapports du carnet avec une certaine fiction, il y a de l'imagination, de l'invention, de la fiction dans les carnets. Le propre du carnet n'est pas la sincérité comme on le croit, ce n'est peut-être pas une valeur absolue, mais c'est la valeur de fiction dans le carnet. Et je pensais que Nabokov avait dit un jour, quand un critique dit d'un auteur qu'il est sincère, je me demande lequel des deux est un imbécile.
Ah oui.
Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle nous aide beaucoup, nous autres qui aimons les carnets, les journaux, à ne pas succomber à l'idée la fiction c'est le mensonge et le carnet c'est la sincérité.
Oui, oui. C'était un sorcier. Son style, son humour, ça me fascine toujours. Pas Lolita, non, non. Je crois que peut-être c'est le moins intéressant de ses romans.
Mais ses mémoires, Autre Rivage.
Ses mémoires, L'Autre Rivage, oui.
Enfance et, oui. Et sont magnifiques.
C'est très beau, oui.
Et ses lectures interfèrent sur ce que vous êtes en train d'écrire pour l'instant? Vous les choisissez parce qu'elles sont en accord ou au contraire parce qu'elles s'éloignent de ce que vous faites en ce moment? Elles vous gênent dans votre travail?
Non, mes lectures sont toujours très chaotiques. Je continue maintenant mes carnets sous un autre titre parce que le titre de ces premiers 4 volumes était en polonais, Les Mois. Les Mois, c'est-à-dire janvier, février, etc.
Il y a une question qu'au fond je ne vous ai jamais posée, mais qui me préoccupe, parce que c'est un problème, je dirais, presque de boutique, d'atelier, de technique. Tenez-vous un carnet régulier tous les jours, qui serait en quelque sorte une matière à partir de laquelle vous décideriez un moment d'écrire et de composer ce que vous allez livrer ensuite sous le nom de carnet?
Et jamais. Non, jamais. Je ne fais que des notes. Pour ce que je suis en train d'écrire. Et en général, presque toujours, je ne les utilise pas. Elles restent dans un brouillon, dans un cahier. Un grand brouillon, très gros, est resté à Varsovie. Je l'ai perdu. Et peut-être il y avait des choses intéressantes qui me seraient utiles maintenant. Mais comme je n'ai pas attaché une grande importance à ces notes, c'était toujours quand je me suis mis à écrire. J'écrivais d'autres choses. Je me suis écarté de ces notes.
Oui, mais tout de même, vous avez besoin d'une trame. Si vous faites votre voyage aux États-Unis, ou bien vos premiers carnets, carnet Varsovie, ou bien ce séjour à Paris prolongé, vous avez besoin d'une trame historique. Vous consultez pour retrouver les événements, les dates, les faits qui se sont passés?
Non.
Tout cela, c'est dans votre mémoire?
Absolument.
C'est un élément important parce que cela prouve à quel point nous ne sommes pas loin du travail, on en revient toujours à cela, nous ne sommes pas loin du travail du roman. Et pourtant, vous avez dit aussi ceci, que l'écriture était entre la prière et le travail. C'est vrai, vous pensez toujours cela?
Vous savez,
vous n'êtes pas un homme religieux?
Non. Je ne sais pas si je suis un homme religieux. Je ne suis pas pratiquant, je n'appartiens à aucune église. Formellement, je suis catholique, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas religieux, que je ne suis pas croyant. Non. Même, je dirais que je crois à une vie éternelle. Mais c'est un thème qu'on ne peut pas maintenant développer, c'est un sujet qui nous dépasse maintenant. Mais je vais retourner à mes notes. C'était très rarement que j'ai utilisé une note que j'ai faite du jour au lendemain. Je me souviens d'une phrase. Je crois que je l'ai mise dans mes carnets. C'était une phrase suivante. Il est plus facile de cacher son désespoir que la satisfaction de soi-même. Et j'ai noté des phrases comme celle-ci, pas des dates, pas, non.
Oui, par exemple, voici cette phrase qui est un conseil pour un littérature débutant. Oubliez que Kafka existait comme les surréalistes ont oublié qu'avait existé Balzac.
Oui. Et pour conclure, je vais vous dire une chose, c'est-à-dire je vais vous demander de m'excuser. Hier, j'ai trouvé dans les bloc-notes d'une femme des lettres, polonaise, quelques aperçus concernant son confrère, un auteur dramatique. Elle a écrit « Il déteste les interviews ». Et lorsqu'on lui pose une question, ou bien il ne répond pas, ou bien il répond avec une évidente abomination et sans aucun sens. Et c'est pour vous informer qu'il y a des cas pires que les miens.
À voix nue, Casimir Brandis s'entretenait avec Daniel Salnave. Réalisation Nicole Salerne.
Ce dernier volet de la série D'à voix nue consacrée par Daniel Salnave à l'écrivain Casimir Brandis a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 4 juin 1993. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.